Dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Bonjour Shlomo Sand.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous au micro de la grande table aujourd'hui. Vous êtes historien, professeur émérite à l'université de Tel Aviv. On vous doit un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire des Juifs, sur l'histoire d'Israël, sur votre métier d'historien. Mais vous faites paraître aujourd'hui un essai qui s'apparente, dans la dernière partie, on va y revenir, à un pamphlet qui s'intitule « La fin de l'intellectuel français » qui porte un point d'interrogation. « La fin de l'intellectuel français » de Zola à Houellebecq, c'est un essai que fait paraître en français les éditions La Découverte, qui est traduit de l'hébreu par Michel Bilis. Comment en être venu à vous intéresser à cette figure de l'intellectuel français, vous qui connaissez bien la France, qui avez d'ailleurs la nationalité française, il me semble, qui avez travaillé sur la France, mais qui n'aviez pas encore écrit sur cette figure de l'intellectuel à la française? Pourquoi aujourd'hui cette figure de l'intellectuel à la française?
Il y a deux raisons. Premièrement, que je voulais être un intellectuel, comme j'habitais à Tel Aviv, au Jaffa plutôt. Et c'était une de mes rêves de jeunesse, de devenir intellectuel, qui critique tout le monde, et qui défend. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, qui m'a poussé de publier maintenant, parce que nous sommes devant un phénomène que quelque chose change profondément dans l'intelligentsia française, oh, chez l'intellectuel parisien. Moi, qui grandis comme un étudiant à Tel Aviv et après un étudiant à Paris, il y avait des personnages incroyables dans l'intelligentsia française, qui pour moi c'était une sorte d'Athènes moderne. D'accord, je suis venu connaître plus les idéologies et les philosophies de Sartre jusqu'à Foucault et Bourdieu. Donc j'étais ravi d'apprendre tout ça. Et les derniers 20 ans, je vois une disparition de certains poids intellectuels qui est remplacé par des autres intellectuels. J'ai insisté de mettre les points d'interrogation parce que je ne suis pas sûr le destin demain de ça. Mais quelque chose d'important, quelque chose a changé. Ce n'est pas exactement pour des gens comme moi, hors de la France, l'Athènes moderne comme c'était il y a 20, 30, 40, 50 ans.
Et c'est pour cela, Shlomo Sand, que votre livre est construit en deux parties qui se lisent de façon très différente. Il y a d'abord les pages principales, majoritaires et les plus longues d'ailleurs, qui retracent l'histoire, qui font l'étude historique de cette figure de l'intellectuel français, qui est souvent d'ailleurs apparentée à l'intellectuel parisien, on y reviendra sans doute, et vous datez l'existence de la création, disons, la naissance de l'intellectuel à la française des Lumières, confirmée bien sûr avec l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle, et vous portez une attention très particulière à cette affaire Dreyfus. Et puis, les, disons, 50 dernières pages sur un livre qui en compte, je crois, à peu près 200, disons. Donc la dernière partie est radicalement différente, même dans l'écriture. On sent une colère chez vous. Cette colère, c'est celle de ce temps que nous traversons aujourd'hui, c'est celle de notre actualité. Et là, peut-être que l'universitaire ou l'historien que vous êtes se fait plus polémiste parfois, vous êtes très virulent à l'égard des figures contemporaines de l'intelligentsia française. Et là, on croise alors un écrivain, Houellebecq, un chroniqueur, journaliste qui a fait un essai à succès, Éric Zemmour, et un intellectuel, penseur, qui existe depuis longtemps en France et qui a même une émission hebdomadaire sur cette chaîne, qui est bien sûr Alain Finkielkraut. Voilà pour les principaux personnages qui sont dans cet ouvrage. Pourquoi cette différence de traitement entre les pages centrales et cette dernière partie, Shlomo Sand?
La question est morale, c'est-à-dire les premières parties, comme historien professionnel, j'essaie d'être très équilibré avec les jugements de valeur, avec les jugements de faits, etc. Donc je fais un certain travail historique, ordinaire ou pas ordinaire, mais qui a essayé de ne pas être un juge. J'ai essayé. Il y a un chapitre, par exemple, sur l'intellectuel fasciste ou pro-nazi que j'essaye d'être critique, mais mesuré, ce n'est pas comment on sortait sur eux et dire qu'ils ont détruit la France. Mais j'ai aimé toute ma vie jouer, comment dire, un poker ouvert, c'est-à-dire dévoiler mes cartes. et aussi le jugement de valeur. D'ailleurs, je faisais ça avec des autres livres que j'ai écrits sur le sionisme, sur l'historiographie sioniste. Toujours le début et la fin, il y a quand même un jugement de valeur. Il y a un problème très important, justement, qui s'est exprimé tout à l'heure avec les spécialistes des théologies. C'est-à-dire, les spécialistes dans leur coin n'osent pas faire des synthèses et entrent dans la scène publique pour se confronter avec l'intellectuel médiatique qui sont hégémoniques aujourd'hui en France. La spécialisation, le travail en miettes d'université fait l'incapacité de faire des grandes synthèses et se confronter avec certaines pensées qui sont devenues hégémoniques. Donc, je me souviens hésiter, mais je décidais justement, ne pas jouer l'intellectuel froid, les scientifiques froids, etc. Et parce que je suis inquiète.
Oui, prendre position, assumer vos positions.
Je suis inquiète et même que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Comment j'ai cessé d'être juif », je suis d'origine juive, c'est-à-dire je suis d'origine de ceux qui étaient persécutés, et autrefois, pas aujourd'hui, et j'ai senti que c'est mon devoir, justement, réfléchir, est-ce qu'il y a des autres gens qui sont persécutés aujourd'hui. Donc la dernière partie, c'est une poussée, si vous voulez, morale et politique, et je pensais que c'est nécessaire de compléter ce livre.
Antoine.
Oui, un petit exemple de ce que vous écrivez, n'est-il pas pathétique de voir ce fils de Polonais juif, donc Finkielkraut, et ce fils de Berbère juif, donc Zemmour, fantasmer sur cette grande nation pourtant disparue à jamais, ça c'est la France. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change qu'il soit juif ou pas, du fait de rendre pathétique cette position?
Premièrement, moi je suis aussi d'origine juive. D'ailleurs, des titres, il y a des Zola à Houellebecq qui n'est pas d'origine juive. C'est-à-dire, je traite aussi des autres qui ne sont pas d'origine juive.
Mais vous dites que c'est pathétique de voir ces fils, ces juifs, de faire ça.
Oui,
pourquoi est-ce que ça, en quoi le fait d'être juif change la question du pathétisme?
Ce n'est pas d'être juif.
C'est ce que vous écrivez.
Non, c'est être des fils des émigrés juifs. Et c'est indifférent. C'est-à-dire, je souligne les faits que les deux personnages d'intellectuels médiatiques hégémoniques aujourd'hui sont des enfants des émigrations. C'est ça qui était important pour moi. Et ce n'est pas un hasard, c'est une émigration d'origine juive. Mais si vous voulez, je voulais mettre les doigts sur une chose importante. Moi aussi appartiens à certaines générations, qui n'est pas très différente de la génération de Finkielkraut, des enfants des émigrations. Émigration en Palestine et Israël, et pas en France. Maintenant, les sensibilités que j'ai face au problème d'émigration, face au problème de l'autre qui n'est pas exactement comme moi, et c'est ça qui m'a dérangé chez Finkielkraut et Zemmour, mais aussi chez Houellebecq. D'ailleurs, je suis beaucoup plus sévère, si vous voulez savoir, en face de Charlie Hebdo, beaucoup plus sévère qu'en face de Finkielkraut et Zemmour, et en face de Houellebecq. Donc, ce n'est pas le problème de judéité, ça m'intéresse plus, si vous voulez, pour être honnête jusqu'à la fin. Vous savez, une des thèmes centrales de Finkielkraut est ses critiques en face des émigrés, des communautés musulmanes. Et une des choses très importantes, il dit, voilà, la première fois dans l'histoire des migrations, il y a une grande communauté qui ne veut pas être accueillie, qui ne veut pas être assimilée ou intégrée. C'est la position de Finkielkraut. Il accuse à partir de 2005, justement, on a mentionné tout à l'heure les émeutes des enfants des émigrés, donc il accuse qu'il ne veut pas devenir des vrais Français comme lui, il est devenu. Il y réfère des Charlemagne, etc. Zemmour, pareil. C'est ça qui, personnellement, j'ai pris ça au cœur. Pourquoi? Parce que, vous savez que, et je mentionne ça dans le livre, aux États-Unis, à New York, il y a, à Brooklyn, il y a un demi-million des émigrés, c'est-à-dire des enfants des émigrés juifs, qui gardent leur propre culture.
Ils vivent à côté, mais pas vraiment contre.
Ils vivent à côté, ils n'acceptent pas la culture américaine. Ils ne parlent pas même l'anglais. C'est-à-dire, vous allez traîner dans les rues de Brooklyn, vous allez attendre jusqu'à aujourd'hui les Yiddish. Et pas seulement ça, les habits, tout ça. Ils ne veulent pas être une partie des melting pot. Ces juifs là-bas, c'est des vrais juifs pour moi, le fait que la culture américaine supporte ça, c'est-à-dire c'est une partie de la, comment dire, des paysages américains d'accepter ces divergences différentes. Et je demande et je pose, et c'est ça quelque chose de personnel. Et est-ce qu'on est contre cette grande communauté, demi-million à New York, à Brooklyn, demi-million? Est-ce qu'on a pensé que les États-Unis a dû les laisser en Europe sous les griffes des nazis? Parce qu'ils sont venus de l'Europe. C'est des réfugiés de l'Europe qui ont fui une malheur, qui ont fui une persécution. Qu'est-ce que les États-Unis, les films qu'ils font américains, a dû dire ça dans l'année 20-30? Il faut fermer les portes, parce que ces gens ne peuvent pas être intégrés. Ils gardent ses religions, ils gardent ses mœurs, ils gardent ses
lois. Vous dites que les musulmans d'aujourd'hui sont les juifs d'hier, Shlomo Sand.
Pour être court, sur une certaine façon, oui. Ce n'est pas une sur un, il y a des autres expressions, mais il y a un côté important. Je crois que la plupart des gens d'origine musulmane en France sont intégrés, sont en processus d'intégration, sauf avec une indifférence qui a un rapport aux choses qu'on a parlé avant. L'État-providence recule dans l'Occident, recule en France, et l'État laisse dans ces communautés seulement les griffes. Et un des phénomènes de conflictualité avec une partie des enfants des émigrés vient de cette fait que nous sommes dans une crise socio-économique grave et les rapports avec les étrangères, les émigrés, les démonies est différent aujourd'hui. Donc, je voulais insister, les enfants des émigrés traitent les nouveaux émigrés et ce n'est pas la première fois en histoire, c'est-à-dire l'Irlandais, l'Italien, etc. En États-Unis, chaque vague d'émigration a traité l'autre émigration avec une façon de réticence, de critique, etc. C'est ça que je voulais dire.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Notre invité aujourd'hui est Shlomo Sand, historien, professeur émérite à l'université de Tel Aviv, à qui l'on doit, en 2008, d'avoir écrit comment le peuple juif fut inventé, chez Fayard, traduit en 21 langues, de comment j'ai cessé d'être juif, traduit en 12 langues, et qui signe aujourd'hui la fin de l'intellectuel français, point d'interrogation, de Zola à Houellebecq aux éditions La Découverte. Vous savez, il y a une tradition dans cette dernière partie, Shlomo Sand, c'est que nous proposons à une troisième personne plus qualifiée que nous de lire, quand il s'agit d'un essai, le livre de notre invité. Nous avons proposé à quelqu'un d'une autre génération aujourd'hui de nous rejoindre autour de la table. Elle est doctorante en sciences politiques. Elle est elle-même l'auteur d'un livre paru en janvier aux éditions Stock intitulé « Les bûchers de la liberté ». C'est Anastasia Colosimo que j'accueille. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu le livre de Shlomo Sand.
Oui, alors j'ai lu votre livre, monsieur Shlomo Sand. C'était une très très bonne lecture, je vous en remercie.
Merci.
C'est un livre très riche et j'ai eu cette impression aussi qu'il y avait un peu deux livres dans le livre. Une partie très historique, où on apprend beaucoup de choses, on revient sur les grandes fractures idéologiques. Et une deuxième partie, beaucoup plus étonnante, le deuxième livre du livre, où vous nous expliquez que les intellectuels français aujourd'hui sont en déclin, surtout parce qu'ils sont tous islamophobes. Alors ma première question, c'est vraiment, elle est très très simple. J'aimerais savoir comment vous avez sélectionné les intellectuels dont vous avez décidé de parler, surtout en ce qui concerne notre époque. Vous ne parlez pas de Régis Debray, vous ne parlez pas de Marcel Gaucher, vous ne parlez pas de la revue Le Débat, qui aujourd'hui quand même draine les plus grands intellectuels qu'on ait, la revue de Pierre Nora. Et vous fixez en fait la question des intellectuels sur la question de la judéophobie hier et de l'islamophobie aujourd'hui. Alors pourquoi ce choix ?
Et je voudrais corriger une petite chose. Je parle sur les débats à certains moments.
Oui, mais sommaire. Enfin, vous prenez quand même comme grande figure Houellebecq, Zemmour, Finkielkraut.
Non, non, c'est à la fin. Mais avant, il y a un chapitre que je dis qu'en début d'année 80, comme les débats apparaissent, c'est la fin de certains intellectuels. Et d'ailleurs, Pierre Nora déclare ça dans les premiers numéros des débats. Maintenant, la centralité de cette, si vous voulez, de cette revue débat. La centralité des figures de, comme Pierre Nora et Marcel Gaucher a détérioré aussi. Maintenant, je voulais dire que le déclin des intellectuels parisiens plutôt d'ailleurs, pas français, c'est un autre chapitre très important pour moi. Je voulais dire que ce n'est pas l'islamophobie le déclin. L'islamophobie, c'est un résultat, un symptôme. Le déclin, je parle sur le fait qu'on appelle Finkielkraut, qu'on appelle Ben-Lévy, qu'on appelle une série Pascal Bruckner, des autres, qu'on l'appelle philosophe. Et maintenant, la différence, c'est que malheureusement, ceux qui façonnent aujourd'hui la scène publique centrale, ce n'est pas un homme comme Marcel Gaucher, qui est, pour moi, avec toutes ses opinions, le fait qu'il est néoconservateur ne diminue pas le fait, les capacités intellectuelles. Les problèmes que les gens avec une autre capacité intellectuelle jouent, qui façonnent les scènes politiques. Le déclin, ce n'est pas l'islamophobie. L'islamophobie, c'est le résultat moral de certains phénomènes de déclin. Donc, si vous voulez, je ne mêle pas exactement les deux choses. Vous savez, autrefois, on appelait Sartre, Deleuze, Bergson, des philosophes. Aujourd'hui, je ouvre le journal, on parle sur Finkielkraut, le philosophe, le Baron Lévy, le philosophe. Vous devez savoir, Baron Lévy, philosophe pour moi. C'est-à-dire, c'est un phénomène culturel qui est, excusez-moi, mais et si on regarde qui vend les livres, qui domine les, c'est l'intellectuel médiatique. Avec tout le respect de Marcel Gauchet, il est en marge. Vous comprenez? Et je ne juge pas les positions politiques historiques, parce que j'ai une grande admiration personnelle à Marcel Gauchet. Et je repousse toutes ces positions politiques. Mais c'est une autre chose. Ce n'est pas lui. C'est-à-dire, ce n'est pas Sartre moderne. Ce n'est pas Foucault moderne, Marcel Gauchet. Vous comprenez? Qui remplit certaines scènes politiques et médiatiques françaises.
Anastasia Colosimo.
J'entends très bien ce que vous me dites, mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que le problème, c'est pas tant, c'est plutôt l'espace médiatique et la manière dont il est organisé, et aussi le fait qu'on fait appel sans cesse aux intellectuels. Il y a aussi ce paradoxe quand vous dites le déclin de l'intellectuel français, et en même temps, on l'a jamais autant vu, l'intellectuel français. Tous les hebdomadaires passent leur temps à faire leur une sur les intellectuels français pour vendre aujourd'hui. Il faut faire parler l'intellectuel français. Et en plus, il est plus écouté que le politique aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que comment, alors, en fait, pour vous, c'est le déclin du bon intellectuel français au profit, en fait, du règne de l'intellectuel français médiocre.
Vous savez, dans les livres, premièrement, oui, il n'y a pas de bon politique. Il y a l'intellectuel critique qui toujours s'oppose au pouvoir, c'est-à-dire quelque chose qui naît pas seulement les frères Dreyfus, avec Zola et les autres, ça naît déjà avec Voltaire, avec Diderot, avec et Jean-Jacques et tout ça. Donc, ils s'opposent au pouvoir, si c'est monarchique, si c'est d'église. Donc, il y a une essence de certains intellectuels critique très spécifique dans l'histoire de la culture française. Et cette intellectuelle critique, si vous voulez, face au pouvoir, est en train de disparaître. Et ça, c'est important, parce que, vous savez, il faut relire Foucault et relire Bourdieu et voir leurs jugements face au pouvoir. Donc, aujourd'hui, et d'ailleurs, pas moins importante qu'autrefois, c'est... Il y avait des intellectuels qui ont eu une capitale de savoir, une capitale symbolique hors des médias. Et les médias l'ont invité à cause de cette capitale de savoir. Aujourd'hui, une série de gens qui sont tout le temps invités par les médias n'ont pas un vrai capital de savoir hors des médias. Vous comprenez, ils n'ont pas des œuvres philosophiques, sociologiques, anthropologiques.
Oui, mais là, Anastasia Colosimo a raison. C'est une critique des médias que vous devriez formuler, pas une critique de ces personnes.
Ça. C'est-à-dire, je dis, et d'ailleurs, je suis certaine, je suis pas marxiste peut-être, mais je suis matérialiste historique, je dis, comme Marx a dit, que si les moyens de production changent, les rapports de production changent. Si les moyens de communication, les médias changent, les rapports de force entre les intellectuels et les médias changent. Aujourd'hui, et j'ai décrit ce processus qui commence dans les années 70 avec les grandes émissions merveilleuses de Fibon, c'est lui qui a décidé qu'il y a intellectuel, et voilà les rapports, c'est-à-dire c'était moins ou moins des gens qui ont accumulé une capitale de savoir hors de la média, hors de cette scène, ils ont été invités, il y avait un autre rapport de force entre les gens de médias et les intellectuels. J'essaie d'écrire ça.
Vous êtes un peu décliniste, peut-être. Je ne dis pas néo-réac. Vous estimez que c'était beaucoup mieux avant, mais effectivement, quand bien même on vous prendrait au mot, qu'est-ce qui fait que nous en soyons arrivés là, éventuellement, au niveau du débat, et pourquoi est-ce que les sociétés aujourd'hui, parce que c'est pas uniquement en France, je pense que la question se pose, pourquoi est-ce que nous sommes subvertis, on va dire, par le médiatique? Et où est le problème, fondamentalement?
Vous savez, j'ai essayé deux réponses. Une réponse pour montrer que je sais rien de tout. Et je suis bouche bée en face de ce phénomène, parce que jusqu'à maintenant, comme historien, je ne comprends pas pourquoi la Renaissance, la grande Renaissance dite italienne est disparue, était remplacée par le maniérisme. Je n'ai pas une explication à donner pourquoi Michel-Angelo, Leonardo da Vinci, à certains moments, ont cessé figuré dans la vie culturelle, et on a de cette danse maniériste qui sont venues après. Donc je demande aujourd'hui si nous sommes tous des maniéristes, primo. Mais ça veut dire que je ne comprends pas le phénomène complètement. L'autre côté, oui, il y a des problèmes que je ne crois pas que c'est isolé. Le phénomène intellectuel a un rapport. Décliniste de gauche, vous pouvez me définir comme...
Voilà.
Non, je ne suis pas décliniste, il y a une point d'interrogation, premièrement. Mais il y a une régression économique dans l'Occident et surtout en France aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est une crise économique ou déclin du capitalisme. Personne ne sait pas. Et parallèlement, comme je dis tout à l'heure, un recul d'État-providence. C'est-à-dire, il y a une série de phénomènes qui accompagnent cet déclin, si vous voulez, des grands intellectuels. Donc, il y a une partie que je peux répondre, si vous voulez, sur le niveau politique. Parce que ce n'est pas seulement le déclin des intellectuels. Vous m'excusez, regardons les classes politiques aujourd'hui en France. Je me sens un peu mal à l'aise, pour être franc. Pas que je viens d'un pays qui a une classe...
Mais avec qui vous sentez à l'aise alors, Shlomo Sand?
Pardon?
Avec qui vous sentez à l'aise?
C'est-à-dire, peut-être je suis nostalgique à Bourdieu, à Foucault, mais parfois je ouvre l'Internet et je vois que l'Internet, par exemple, comme un nouveau mode de communication, à la fois est très dangereux et très avec une perspective d'ouverture. Et si vous voulez... Oui, je suis à l'aise avec Bernie Sanders, pour vous donner un exemple. Et je sais que les électeurs de Donald Trump appartient à l'époque des télévisions. C'est les grandes figures de télévision américaines. Par contre, Bernie Sanders, nous savons ça, c'est déjà été avec Obama, que la plupart des supporters viennent des jeunesses qui, comment dire, qui est accrochée beaucoup plus à l'Internet qu'à la télé aujourd'hui. C'est un fait, c'est-à-dire, ce n'est pas... Donc, je suis à l'aise plutôt avec Bernie Sanders qu'avec beaucoup des autres, que Donald Trump, si vous voulez. Un point de vue intellectuel, tout à l'heure, il y avait un intellectuel que vous avez interrogé, qui est un spécialiste de religion.
Raphaël Liogier. Raphaël Liogier.
C'est difficile à prononcer en français, je m'excuse.
On vous félicite pour votre français.
Donc, j'étais heureuse que vous avez invité... Lui aussi, parce qu'il sait quelque chose, et plus que, par exemple, à propos des théologies, des religions. Mais ces livres ne sont pas des best-sellers. L'esprit du judaïsme de Ben Levi, un homme qui ose écrire un grand livre sur le judaïsme, sans savoir vraiment l'hébreu, sans savoir vraiment l'arménien, c'est un phénomène très, très parisien. Je ne pourrais pas amener une élève à moi faire un doctorat sur la France sans connaître le français.
Alors précisément, puisque vous le dites, c'est un phénomène très parisien et que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Shlomo Sand, il se trouve que l'intellectuel français, selon vous, est d'abord et avant tout un intellectuel parisien dans cette critique de vos intellectuels, c'est-à-dire ceux qui occupent le champ médiatique, pour répondre à la question d'Anastasia Colosimo, qui vous demandait comment vous les avez sélectionnés, c'est effectivement ce qu'on voit beaucoup, manifestement, dans cette critique donc de l'espace médiatique qui accompagne votre critique de ces intellectuels, il se trouve qu'on peut entendre aussi une critique du parisianisme aujourd'hui, puisque vous dites l'intellectuel français, c'est l'intellectuel de Paris aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous lire aussi comme ça?
Pas seulement aujourd'hui. Il y a un chapitre qui s'appelle « La cité et la plume ». Et j'essaie de comprendre ce phénomène spécifique à la France, qui tout est concentré sur le capital. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'école de Marseille, comme il y a l'école de Francfort, vous n'avez pas l'école de Chicago, et vous n'avez pas l'école de Bordeaux, comme vous avez l'école de Chicago. Donc, je crois qu'une des forces du monde intellectuel français était cette concentration à certaines époques. Le fait que la capitale a toujours et voler, rober toutes les autres de la Provence et l'amener à Paris. Sauf que, vous savez, comme avec beaucoup de développements intellectuels, politiques, économiques, si la concentration est trop forte, vous commencez à tuer certaines productivités intellectuelles. Et je mets les questions. Et tout l'effort à l'époque de Giscard d'Estaing de décentraliser la vie culturelle, la vie intellectuelle, a échoué. On peut être intellectuel seulement à Paris. Il y a des raisons, une série de raisons. Donc, cette concentration qui a donné la force à l'intellectuel parisien, je me demande est-ce que ce n'est pas une partie de déclin, cette concentration qui ne laisse pas...
Qui devient une sclérose.
Et voilà.
Anastasia Colosimo.
Alors, en même temps, vous dites ça, et on a l'apparition de figures à la fois comme Zemmour, dont le livre a été lu plutôt pas par les intellectuels et pas par le milieu parisien intellectuel, plutôt rejeté par le milieu parisien intellectuel, élu, voilà, par, je sais pas comment on pourrait l'appeler, les provinciaux, le peuple, et surtout une figure comme Michel Onfray, dont tout le but, quand même, est d'amener la philosophie dans les maisons, de rendre accessible le savoir à tous. Et donc, voilà deux auteurs qui, en partant de démarches assez différentes, quand même, ont la spécificité tous les deux, au contraire, de s'opposer justement à cette figure de l'intellectuel ultra-parisien et de se tourner vers le peuple.
Shlomo Sand.
D'ailleurs, c'est deux figures complètement différentes.
Oui, bien sûr, mais ils ont tous les deux quand même cette...
Sauf que...
C'est pas l'intellectuel parisien.
Non, Éric Zemmour
est
très
parisien. N'est pas un intellectuel, si vous me le permettez.
Oui, bien sûr.
Déjà.
En plus,
Éric Zemmour n'est pas un intellectuel, c'est un journaliste chroniqueur.
Vous avez une image d'intellectuel très, très jolie. Non, je crois que Zemmour, c'est une des... D'ailleurs, à certains moments...
J'ai solide dans les verbes.
D'ailleurs, non.
Vous le comparez à Drummond, quand même, dans le livre.
Et, oui.
Je tiens à préciser. Non,
très bien. Bon. Donc, je voulais vous dire, par exemple, on parle sur l'affaire Dreyfus. Il n'y avait pas une affaire Dreyfus. Il y avait deux affaires Dreyfus. À 1895, les journaux commencent à désigner un juif comme un traître, comme un espion, etc. Qui font ça? C'est des journalistes. Pour moi, c'est des intellectuels. D'ailleurs, il y a aussi des figures, comment dire, des écrivains, Barrès, etc. Donc, si vous voulez, les premières affaires Dreyfus, on voit des gens, si vous voulez, qui sont plutôt journalistes, mais pas seulement journalistes, qui créent une ambiance, qui créent un climat très judophobe. Jusqu'à 98, qui apparaît une contre-courant, si vous voulez, des Zola, des Anatole France, etc. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, à cause des positions pas universalistes de Maurice Barrès, il est intellectuel. Et pas seulement ça. Drummond, pour moi, c'est un intellectuel. Parce que ce n'est pas une image. Je dis tout à l'heure, il y a des intellectuels critiques. En face de pouvoir, en face des idées reçues, en face des églises, en face des religions. Il y a toujours des autres intellectuels et qu'un pouvoir dont l'histoire n'a pas existé sans ces intellectuels. Maintenant, je crois que vous avez tort de ne pas dire que Zemmour est un intellectuel parce qu'il cite moins des philosophes que Finkielkraut. Mais vous devez savoir que Zemmour, j'ai lu son grand livre.
Le suicide français.
Pardon?
Le suicide français.
Le suicide français, qui est un livre intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé des choses plus originaux chez Zemmour que chez Finkielkraut.
Mais comment le comparer à Drummond?
Attendez, parce
quand
qu'il
même.
N'a pas répondu. Oui. Il n'a pas répondu. Bon. Je le mentionne à la question d'Anastasia Colosimo.
Vous dites.
Je vais dire, je ne compare pas.
Ces essais sont étonnamment similaires, vous dites.
C'est-à-dire, je dis une autre chose. D'ailleurs. Si vous voulez savoir, je ne compare pas Zemmour à Drummond. Je compare les livres de Houellebecq à les livres de Drummond. C'est-à-dire, vous devez savoir, à 1886, Drummond publie un livre qui s'appelle La France juive, qui était une des meilleures best-sellers à la fin du 19e siècle. Peut-être les premières, d'accord? Donc, je crois que La France juive, on peut... appeler les romans de Houellebecq, pas seulement Soumission, on peut l'appeler la France musulmane.
Et vous dites qu'on peut remplacer tous les termes musulmans par juive et que sans doute ils n'auraient pas été accueillis de la même façon.
Ce n'est pas Zemmour que je donne un exemple qui me rappelle la France juive, c'est le livre de Houellebecq. Donc il faut faire une distinction. Et j'ai trouvé chez Zemmour beaucoup de choses originales, dites d'une façon beaucoup plus populaire, si vous voulez, vous avez raison. Et il y a une distinction. Je ne crois pas qu'on va accepter Zemmour à l'Académie française, et non, comme Finkielkraut. Mais je crois que c'est un intellectuel qui joue un rôle d'intellectuel très très important. Parce que vous devez savoir que Zola, par exemple, qui est un intellectuel, il a écrit des livres... qu'il y avait des populations, si vous voulez, qui l'ont lu, c'est-à-dire les grandes, comment dire, dans les salons parisiens à cette époque, on dit que c'est pornographie, les œuvres de Zola, si vous savez. Donc c'était destiné à une population beaucoup plus large, le roman de Zola. Non, Zemmour est un intellectuel. Quel intellectuel, c'est une autre question. Quelle morale il exprime, c'est une autre question. Vous comprenez? Mais, bon, j'ai fait la distinction entre les gens, je ne dis pas qu'ils sont pareils.
Mais alors d'ailleurs, en parlant de distinction, on est quand même intrigué. Moi, j'avais une vraie question à vous poser. Quelle filiation vous trouvez, quelle filiation on peut faire entre voilà, les anciens, Drieu La Rochelle, Robatet, Brasillac, etc., et les intellectuels d'aujourd'hui, qui sont aussi, voilà, méli-mélo, des réactionnaires, des conservateurs, voilà, on aurait du mal même. Alors, quelle est la filiation que vous pouvez faire entre les deux, comment vous la faites, et surtout, encore une fois, je suis désolée de vous reposer un peu la question, est-ce pourquoi la seule fracture, en fait, c'est sur la question de l'islam et du judaïsme, et pourquoi il y en a, vous n'en voyez pas d'autres, en fait, de fracture, ni hier, ni aujourd'hui.
Clemossand.
Oui, j'étais un peu plus trop longue, je m'excuse, je suis une grande bavarde. Bon, j'essaie d'être un peu plus court maintenant. D'ailleurs, à propos de l'analogie que j'ai fait entre les intellectuels passés, je suis très prudent. Je n'ai pas dit que Houellebecq et Drummond, ça c'est un roman, l'autre c'est un pamphlet, etc. Et les qualités littéraires sont différentes. Sauf que, oui, je fais, et c'est-à-dire je pousse quelque chose, je fais une analogie sans penser que c'est pareil. Maintenant, avec l'intellectuel dans l'année 30, par exemple. D'ailleurs, je crois que je n'autorise pas réactionnaire, néo-réactionnaire, etc.
Non, bien sûr,
ce n'est pas mon vocabulaire.
Oui, non,
personne ne veut pas aller en arrière. Tout le monde veut aller en avant, mais les directions différentes. Donc, ils sont des conservateurs, et parfois des conservateurs de droite, avec, et ça c'est important de comprendre, ils sont moins ou moins universalistes. Les grandes qualités de l'intellectuel français, parisien pour moi, dès que j'étais très jeune, était cet humanisme universaliste qui a commencé porté par Voltaire, par Rousseau, par Diderot.
Mais donc c'est le même procès hier, et c'est, enfin, on est dans le même procès d'hier et d'aujourd'hui.
Et justement,
parce que ce ne sont pas des humanistes universalistes.
Exactement, c'est ça les critiques. Pourquoi ? Et surtout à l'époque.
C'est ça la déception.
Et c'est ça les déceptions profondes que j'ai en face de eux et qui se traduit politiquement sur certaines positions que je suis effrayé. Parce qu'on sait comment on jette les autres en début, mais on ne sait pas comment c'est terminé. Maintenant, je ne dis pas que Drieu La Rochelle, c'est pareil que Houellebecq et même pas Drummond. Mais je vois dans l'année 30, je fais une analyse, ce qui devient un peu fasciste, il n'y a pas beaucoup de fascistes, ce qui devient un peu, extrême droite, et surtout beaucoup qui commencent à devenir judophobes. D'ailleurs, je ne crois pas que Drieu La Rochelle est vraiment judophobe jusqu'en 1938. Maintenant, je vois Brasillac passe dans les quartiers des Marais, voit dans les marais d'années 30 ces petites juives des yiddish, des peuples yiddish, habillés en noir, et fêtaient leurs fêtes, et parlaient une langue bizarre. Les réactions de Brasillac me rappellent certaines réactions des intellectuels parisiens aujourd'hui face. Et on a parlé sur certains ghettos malheureux, des démonies, des émigrés d'aujourd'hui. Donc, parfois, c'est les mêmes phrases.
Voilà un humaniste universaliste, s'il en était, Mahmoud Darwish, un grand poète qui a écrit ce poème sur vous, Shlomo Sand, le soldat qui rêvait de l'Is Blanc, qu'on entend là interprété par Majida El-Roumi. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu au micro de France Culture. Shlomo Sand, la fin de l'intellectuel français, point d'interrogation de Zola à Houellebecq. C'est édité par La Découverte et traduit de l'hébreu par Michel Bilis. Merci Anastasia Colosimo d'être venu au micro de la Grande Table et d'avoir fait cet exercice à nos côtés. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Bûchers de la Liberté, aux éditions Stock. Merci à toute l'équipe, Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. Merci à Augustin Bernard Roudex. Shlomo Sand, vous serez l'invité invité Toufik Hakem à Un autre jour est possible toute la semaine du 4 au 8 avril dans sa série Les intellectuels français, une histoire à écrire, et lui aussi a mis un point d'interrogation. À la réalisation, c'était Annabelle Brouard, à la prise de son Alexandre Dan.